Chapitre 7. Rembrandt. Connais-toi toi-même. Camille était décidée. Cette fois-ci serait la bonne. Elle demanderait enfin, à l'occasion de la visite de contrôle auprès du docteur Van Horst, si oui ou non, Mona risquait de replonger dans la cécité et pire, de perdre définitivement la vue. Depuis un mois et demi, cette question ne lui était jamais sortie de l'esprit plus d'une heure. Elle ne parvenait pas à se concentrer de manière continue sur une tâche sans que se profile cette hantise au bout de quelques minutes. Cela l'épuisait d'autant plus qu'elle s'était jurée de ne rien consulter sur Internet et que la volonté déployée pour résister à cette tentation avait fini par l'excéder. Camille se disait que du moins l'avis d'un médecin l'aiderait à canaliser un peu cette obsession lancinante. Elle marchait rapidement, sa fille à ses côtés dans les couloirs du métro Châtelet, et se répétait en boucle une double question. Mona risque-t-elle un jour de perdre la vue? Quelle en est la probabilité? Et puis, dans un des innombrables corridors gris de la station, tandis que le pas de Camille s'emballait à nouveau, Mona retint sèchement sa mère. Tout à ses pensées, étanche à la foule et au tintamarre ambiant, fébrile et résolue, Camille sentit soudain son pied buter sur un obstacle. Elle valdinga. C'était la jambe d'un sans-abri allongé par terre, et Camille, à bout de nerfs, aboya « Mais faites attention, merde !» L'homme, décontenancé, peina à réagir. Il répondit juste avec une politesse embarrassante « Je suis non-voyant, madame. » Alors Camille vit en une fraction de seconde le mot « aveugle », écrit en majuscule parmi quelques phrases griffonnées sur un bout de carton usé appelant à la générosité. Elle vit les lunettes noires tomber par terre sous l'effet du choc. Elle vit le pantalon bleu de Mona juste à côté. Elle venait de heurter un sans-abri aveugle dans un couloir du métro au moment précis où elle emmenait sa fille à l'hôpital en craignant pour ses yeux. Un gigantesque frisson lui glaça le corps. Sans un mot, presque paniquée, elle se releva et se précipita dehors avec Mona. Après avoir fait mine de regarder son téléphone, elle prétexta un imprévu professionnel et annonça à sa fille « On n'ira pas chez le docteur aujourd'hui, chérie. Je dois rentrer à la maison. » Une histoire persane du Moyen-Âge raconte que sur un marché de Bagdad, un vizir fut un matin effrayé de croiser la mort, obscurément vêtue et décharnée, car celle-ci esquissa un geste vers lui, qui était pourtant jeune et bien portant. Le vizir vint trouver son calife et lui annonça son départ immédiat pour la cité de Samarcande afin d'échapper à cette funeste invitation. Le calife accepta et son homme partit au galop. Troublé, le calife convoqua cependant la mort et lui demanda pourquoi elle avait menacé sur le marché de Bagdad un vizir vaillant en pleine force de l'âge. La mort rétorqua « Je ne le menaçais pas. J'ai simplement eu un geste de surprise. Je tombe sur lui de bonne heure. Il est en plein marché à Bagdad. Cela m'a étonné, car nous avons rendez-vous ce soir même à Samarcande. » Camille repensa à cette légende qui l'avait toujours terrifiée. Elle eut le sentiment de vouloir échapper en vain au destin, ou, plus exactement, d'y soustraire maladroitement sa fille. Car annuler ce rendez-vous avec le docteur pour fuir un diagnostic était absurde et ne protégerait personne du malheur. Elle appela pourtant le cabinet du docteur Van Horst et, d'un ton cérémonieux, reprit date pour plus tard, bien plus tard. Quand elle raccrocha, elle vit Mona toute sombre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»«
Ça va. Je te connais par cœur, Mona. Tu es contrariée. Mais on retournera voir le docteur, tu verras. Tout ira bien. Maman, c'est juste la façon dont t'as parlé au pauvre monsieur dans le métro. »
Mona avait raison. Confuse, Camille rebroussa chemin pour présenter ses excuses et demander des nouvelles au pauvre homme. Il avait disparu. Aux enfants, on apprend qu'il est mal de mentir. Et Mona savait qu'elle mentait à ses parents en prétendant se rendre chez un pédopsychiatre chaque semaine, alors qu'elle déambulait au musée avec Dadé. Elle s'en ouvrit à celui-ci et lui parla de Pinocchio. Est-ce qu'elle-même, chaque mercredi,
se transformait un peu à mesure qu'elle dupait sa mère, son père. Est-ce que cela se voit, quelqu'un qui trompe et leurre ? Henri lui frotta le nez. De ce côté-là, en tout cas, rien n'avait bougé, la rassura-t-il. Et il rit de bon cœur. Mais il ne voulait pas non plus se compromettre dans une apologie pure et simple de la mystification, fût-elle irréprochable dans son objet. L'affaire était moralement trop grave pour être traitée à la hâte. Comment faire comprendre à une enfant élevée dans l'honnêteté ce qu'étaient les entre-deux, les entrelacs du vrai et du faux? Comment délayer les conceptions binaires du bien et du mal sans la désoler, la désorienter ni la décevoir? C'était une tâche insurmontable, et Henri savait pertinemment que seule l'expérience de la vie était capable de telle modération. La verticalité de son discours serait contre-productive avec Mona. Et tandis qu'il réfléchissait en approchant du Louvre, il se dit que c'était certainement le moment de gagner le deuxième étage de l'aile de nom. Le moment juste pour évoquer la notion de clair-obscur. Sur une toile d'un bon mètre de hauteur, se tenait assis de trois quarts un homme d'âge mûr, coiffé d'un bonnet d'intérieur blanc, éclairé par une lumière venant de l'angle supérieur gauche de la composition. De part et d'autre d'un nez empâté, les yeux, fixés sur le spectateur, se montraient vagues et mélancoliques, tandis que la peau burinée, s'affaissant au niveau des joues rougies, éclatait dans la lueur vaporeuse. Il avait une ride tragique au front, un pli plus tendre, plus ironique aussi, au coin de la bouche. Une légère barbe négligée et les boucles des cheveux donnaient une note grisonnante à cette tête, sous laquelle tout était beaucoup plus sombre. Le manteau du modèle, sans se confondre avec l'arrière-plan obscur, donnait du moins l'impression de peiner à s'en détacher, voire de s'y perdre. La clarté revenait, plus bas encore, aux alentours de la taille, pour révéler une main tenant une canne à peindre, une baguette en bois destinée à soutenir la main des artistes pour l'exécution des détails, et la seconde, agrippant ensemble un chiffon, des brosses et une palette, sur laquelle se découpaient trois couleurs, du vermillon, du mordoré et une tache de blanc au cœur de laquelle se nichait un soupçon de noir. Enfin, sur le côté droit, l'arête d'un panneau de bois apparaissait. C'était le dos d'un tableau auquel travaillait ce personnage. Encore un portrait, avança Mona au bout de 11 minutes, comme celui de la bohémienne. Et là encore, on voit bien les marques de peinture. Je veux dire, les touches bien épaisses. La bohémienne était toute gaie, lui est triste au contraire. Mais les deux ont quand même quelque chose qui se ressemble. Eh bien, Mona, tu m'impressionnes. C'est seulement la 7e œuvre que nous venons regarder, et ça y est, tu commences à te faire un œil. La bohémienne était de Franz Hals, et ce tableau est un portrait du peintre Rembrandt par lui-même. Un autoportrait, donc. Un genre alors plutôt nouveau qui avait vu le jour aux alentours de 1500. Rares étaient les autoportraits où l'artiste osait se représenter dans son atelier, ses outils à la main. C'est le cas dans celui-ci que Rembrandt réalise à l'âge de 54 ans. Il est né 2 décennies après Franz Hals, en 1606 précisément. Mais les deux hommes se connaissaient et appartiennent, comme tu as réussi à le percevoir, à une même école, celle des Hollandais du XVIIe siècle. Franz Hals a fait toute sa carrière dans la cité de Haarlem, tandis que Rembrandt, originaire de Leiden, une ville universitaire, a très vite gagné Amsterdam, un port foisonnant, prospère, recevant des produits du monde entier, dont l'artiste était friand. Tu ne le vois pas là, mais parmi la quarantaine d'autoportraits peints par Rembrandt de sa jeunesse à sa mort, en 1669, nombreux sont ceux où il se met en scène avec des costumes orientaux, des parures ou des armures, autant d'accessoires insolites qu'il achetait sur les foires ou dans les ventes aux enchères et collectionnait. Rembrandt aurait été un bon client pour papa.
Certainement.
Tiens, d'ailleurs, comme ton père, Rembrandt était également marchand. Au rez-de-chaussée de sa grande maison du quartier juif d'Amsterdam, il tenait boutique, vendait ses peintures, ses gravures, mais également celles d'autres artistes. On peut encore visiter cette demeure aujourd'hui, tu sais.
J'aimerais tant y aller.
Tu iras, Mona. Sois patiente. Et tu verras. Amsterdam est partout traversé de canaux.
La ville donne l'impression de tanguer sur les flots. L'hiver, l'atmosphère est brumeuse, énigmatique. L'ambiance y est mystérieuse. Et l'on retrouve bien souvent ce mystère dans les tons des peintres du nord de l'Europe, et de Rembrandt en particulier.
Je crois que je comprends, Dadé. À Amsterdam, il fait humide, froid et nuit tôt. Et donc les peintres de là-bas, ils avaient un style qui ressemblait à la ville où ils vivaient. Et c'est pour ça que ce tableau de Rembrandt, il est comme embrouillé. J'ai bon ?
Un honorable 8 sur 10, Mona. Elle se félicita de sa note. Mais, se hâta-t-il de reprendre, garde-toi de penser qu'une géographie, avec ses paysages et sa météorologie, détermine un style de peinture. On oppose en effet bien souvent l'éclat solaire de l'art italien de la Renaissance à la froideur des humeurs plus sourdes des Hollandais. Ce n'est pas faux, mais il faut de la nuance à tout cela. Rembrandt fut très influencé par un Italien qui lui-même était une sorte de maître des ténèbres. Son nom était Caravage. Il avait mené jusqu'à sa mort en 1610 une carrière brève et fulgurante, marquée par de nombreux scandales. Il avait été criminel, avait enduré plusieurs séjours en prison. Mais il avait surtout bouleversé la peinture en proposant une innovation majeure. L'usage de contrastes intenses au sein d'une même composition. Le clair-obscur.
Oh, c'est beau comme mot.
Et c'est encore plus beau en italien. Il chiaroscuro. Mona répéta le terme pour l'assimiler. Avec le clair-obscur, le noir n'était plus une injure à la couleur, ni sa négation. Il devenait son porte-voix. Et le noir se mit à envahir le tableau, à le dévorer. Ces mots eurent sur la mémoire de la petite l'effet de la foudre. Et regardant l'autoportrait de Rembrandt, elle fut soudain secouée d'un tremblement. Elle se blottit contre son grand-père, lequel reprit son explication en adoucissant la voix. Rembrandt préparait ses tableaux en posant d'abord une couche brune, homogène. Cela faisait son fond. Il distribuait ensuite les zones lumineuses. J'entends qu'avant même d'avoir commencé à figurer quoi que ce soit, il décidait des endroits qui rayonneraient plus vivement à la surface de sa toile. Après quoi, sa technique s'apparente à une lente révélation du sujet, comme si celui-ci émergeait des ténèbres. Cependant, et c'est là la subtilité du clair-obscur, tout ne se révèle pas à parts égales. Les zones lumineuses, déterminées au départ de la composition, seront beaucoup plus ardentes et pénétrantes.
Moi, je trouve qu'il éclaire son visage, là. Il devait beaucoup s'aimer.
Attends, écoute encore. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit au sujet de Raphaël. Il était prince parmi les princes, et partout en Europe, le statut de peintre commençait à changer avec la Renaissance. Au XVIIe siècle, Rembrandt héritait de cette évolution, de cette considération nouvelle. Il n'était plus désormais perçu comme un simple artisan, doué de qualités manuelles et d'un savoir-faire mécanique. Il devenait un artiste auquel on reconnaissait de l'esprit, du génie, une singularité. Il était donc logique que Rembrandt affirme sa propre individualité en se portraiturant. Il était tout aussi attendu que des collectionneurs désirent une image de cet homme, qui était une véritable vedette à Amsterdam.
Est-ce que Rembrandt était comme Raphaël ? Il était très riche, avec beaucoup de gens dans son atelier ?
Rembrandt a eu en effet un grand nombre de collaborateurs, et l'argent ne manquait pas. Mais tel que tu le vois là, c'est un homme ruiné, qui vient d'être déclaré en faillite en 1656, pour être précis. Faillite. Le mot était familier à Mona, qui, au détour d'une conversation, l'entendait sortir comme de la vapeur de la bouche grondante de son père.
Ça lui est arrivé comment à Rembrandt ?
Il a d'abord joui d'un formidable succès. Recevait de nombreuses commandes de la part de grandes corporations, c'est-à-dire des associations de métiers, médecins, magistrats, militaires. Il était cependant de caractère très indépendant. Il n'aimait pas toujours les mécènes, et malmenait ses commanditaires en exigeant par exemple, pour les portraits, des temps de pose horriblement longs, ou en tardant à livrer ses œuvres achevées tant qu'il n'était pas satisfait du résultat. Et cela pouvait durer des années. À une époque où l'existence était bien plus courte que maintenant, tu peux imaginer la colère de certains clients,
qui finissait parfois par lui intenter un procès. Mais Rembrandt ne sacrifiait rien au succès commercial. Chacun de ses tableaux devait être conforme à sa vision. Dès lors, son train de vie l'écrasa de dettes, si bien qu'il dut un jour se déclarer en faillite. Il vendit, pour trois fois rien, tout ce qu'il possédait, déménagea de sa magnifique demeure, eut divers démêlés avec la justice. Et il traversa de surcroît de nombreux drames personnels, d'abord frappé par la mort de trois enfants, et en 1642, de sa femme Saskia, il dut souffrir en plus de la ruine, la disparition de sa compagne, Hendrikje, emportée par la peste, et celle de son fils, Titus.
Comment est-ce possible de continuer à peindre quand on a une vie si horrible?
Justement, Mona. Cet autoportrait inscrit dans l'image de l'artiste l'oscillation de la gloire et de l'infortune. Il exprime une mélancolie profonde, et le clair-obscur, avec ses accès de couleurs et ses abîmes d'ombre, montre combien Rembrandt a conscience de la fuite des années. Il ne signe pas seulement une autopsie de lui-même. Il ose faire celle du temps qui passe, de la lutte perdue d'avance entre l'être et le non-être. « To be or not to be », clamait Hamlet dans la tragédie de Shakespeare, jouée en 1603. Un demi-siècle plus tard, l'autoportrait de Rembrandt le murmure aussi. Et autre chose encore.
« Quoi, Dadé? Qu'est-ce qu'il murmure? Je veux l'entendre. »
« Dans l'oreille, Mona. Gnotti, c'est automne. »
« Gnotti quoi ?»«
Gnotti, c'est automne. Connais-toi toi-même. C'est du grec ancien. » La formule inscrite à l'entrée du temple de Delphes, formule qu'aimait à rappeler le philosophe Socrate durant l'Antiquité pour mieux signaler la place de l'humain. L'humain, ombre vague des dieux, et qui se croit pourtant un astre solaire. Connais-toi toi-même, avec tes forces, mais surtout tes faiblesses et tes limites. Prends la mesure de ce que tu es, avec tes grandeurs fragiles et ta contingence. Rembrandt est conscient de son génie, et il s'en vante en campant devant un chevalet, la tête, les mains et la palette dans la lumière. Il est aussi un chrétien tourmenté qui se sait un homme misérable, digne de miséricorde. Regarde, Mona. Sur sa toute petite palette, les peintres n'en utiliseront de plus large que plus tard, il y a du vermillon, du mordoré et du blanc. Ce sont les couleurs qui permettent de rendre la carnation, la chair, la peau. Rembrandt insiste. Ce qu'il peint, c'est d'abord son corps. Ce corps scruté, vu et revu dans ces vastes miroirs plats apparus au début du XVIIe siècle d'un verre poli plaqué sur du mercure, ce corps qui s'use. Ce qu'il peint, c'est son incertaine vérité, Gnotti c'est automne. Au dehors, l'hiver aidant, la fin d'après-midi se confondait avec le soir. Le solstice de décembre était pour bientôt. Le jour alors recommencerait à reprendre du terrain sur la nuit. Le clair ferait lentement fléchir l'obscur, et Mona voulait y voir un message caché, l'idée que, quand même, la lumière l'emportait toujours. Car dans Paris, les décorations de Noël clignotaient.